rester bien informé sur ce qui se passe. Pas pour aller voir si Pascal porte un chandail sans pantalon sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme!
Ah, ça tombe bien, Marceau aussi.
Marceau le midi.
Est-ce qu'on a plus de nouvelles sur cet individu qui marchait coin Charest et Langelier, qui était complètement à poil? Imagine que les policiers ont tombé dessus. Vous êtes dans le secteur 418-971-1021. Donnez-nous l'information, s'il vous plaît, si vous voyez ça sur place. Hey, je vous parle du concours Passe-temps 3000. Merci beaucoup à toute la gang de Passe-temps 3000 d'embarquer dans nos trips. Passe-temps 3000, on offre depuis 50 ans une immense sélection de jouets, de jeux. Il y a des casse-têtes à n'en plus finir là-bas, des jeux de société, jeux de construction, mais il y a des pistes de course pour les petits, mais aussi pour les plus grands, des trains électriques, la variété des véhicules téléguidés qui sont là. C'est incroyable. Vous parlez des bateaux, des hélicoptères, des avions, des voitures, des camions. Il y en a beaucoup de jeux téléguidés. Allez faire un tour chez Passe-temps 3000. Puis pourquoi je les remercie? Ben, parce qu'ils ont décidé de faire avec nous autres, la gang du midi, une super de belle promotion pour fouler le dessous de votre sapin. On va remplir un gros bas de Noël avec les jeux que je vais vous donner pendant 2 semaines. On appelle ça le bas de Noël à Marceau. Donc, chaque jour, j'ajoute un cadeau. Ce cadeau-là devient le mot à inscrire au blvd.fm, blvd.fm, pour courir la chance de gagner tous les jouets qui se trouvent à l'intérieur. Ça vaut plus de 750$ ce bas de laine-là. Donc, vous allez pouvoir en donner à tout le monde qui sera présent chez vous à Noël. Là, je regarde pour ce qui est des jeux de disponibles que je peux mettre dans mon bas de Noël. Tiens, je vais prendre celui-là. C'est une bonne valeur. C'est un jeu de Babyfoot. En plus, si tu sors ça à Noël, ça se peut que tu aies du fun avec les cousins, les cousines. Donc, jeu de Babyfoot, c'est ce que vous avez à inscrire sur blvd.fm dans le bas de Noël à Marceau. L'inscription est possible chaque jour. Donc, pour nous écouter, vous avez plus de chances de gagner, bien entendu. Vous allez pouvoir faire le plein d'heureux. Ça vaut plus de 750$. Donc, merci à Passe-temps 3000 de rendre le tout disponible et allez les voir, services personnalisés et leurs choix de produits vraiment vont vous impressionner. Est-ce que Nicolas Gagnon est là de la Fédération canadienne des contribuables? Salut Nick!
Bon midi, ça va bien?
Très content de te jaser, mon ami. Oui, ça va bien. Il y a plein de choses à jaser avec toi dans l'actualité. Entre autres, le retour sur un texte de Michel Girard dans les derniers jours qui mentionnait que les Québécois paient beaucoup trop d'impôts et de taxes. Je ne suis pas sûr qu'à la CAQ, le visage de Michel Girard se soit bien apprécié là, parce qu'il les brasse en maudit depuis 2 ans.
Ben, et puis il y a pas mal toutes les raisons de le faire. Il faut rappeler que même si on a reçu une baisse d'impôts l'année dernière là, de 1% sur les 2 premiers paliers d'imposition, puis c'était quand même quelque chose qu'on a bien accueilli, il n'en reste pas moins qu'on est encore malgré tout les plus imposés et taxés, pas juste en Amérique du Nord, mais également au Canada. Et c'est une pression fiscale qui est pas à veille de disparaître comme telle, non seulement parce qu'on remarque à quel point, le gouvernement il semble pas trop pressé de nous donner plus de notre argent que ce qu'on paie déjà, mais en plus, on remarque aussi que quand on se compare avec nos voisins, ben la pression fiscale est quand même assez énorme, surtout quand on se compare avec l'Ontario. Donc, c'est à plusieurs égards, on a remarqué à quel point le gouvernement de François Legault avait eu des opportunités, soit d'imiter ses voisins, comme c'était le cas justement avec l'Ontario, le Manitoba ou Terre-Neuve et Labrador, avec des simples baisses de taxes sur l'essence, puis il a décidé de pas suivre le rythme. Il nous avait promis, lors des élections en 2022, une baisse d'impôts de 2,5%. Jusqu'à maintenant, ils ont juste livré 1%. Et on se demande comment est-ce qu'ils vont faire pour livrer le reste, surtout quand on sait que ça va juste arriver s'ils sont réélus en 2026. Mais ce que j'ai le plus aimé dans le texte de Michel Girard, autant qu'on le sait déjà très bien qu'au Québec, on paie beaucoup d'impôts et de taxes, donc se le faire rappeler, c'est pas nécessairement très très agréable, surtout un lundi, mais il n'en reste que le point le plus important, tant qu'à moi, c'est la fameuse dette du Québec, puis comment est-ce qu'on réussit à nous camoufler ça. À la fin de la journée, là, la dette depuis l'année dernière a augmenté de 19,5 milliards de dollars. Et à ce jour, la dette brute du Québec représente quand même pas loin de 57% du PIB du Québec. C'est sûr qu'il faut prendre en considération plusieurs autres facteurs. Mais à la fin de la journée, c'est de voir comment la dette du Québec a augmenté. Puis Éric Girard, il a comme essayé de cacher ça sous le tapis. Juste un petit rappel comme ça. En 2023, la dette, c'est 226 milliards. cette année, c'était supposé être 235 milliards. Donc, c'était supposé augmenter de 9 milliards, entre autres, à cause des déficits et des dépenses. Et finalement, dans la dernière révision qu'ils ont faite, la mise à jour économique qu'ils ont présentée il y a environ une ou deux semaines, ils ont finalement démontré que ça avait augmenté de 19,5 milliards. Donc, pas 9 milliards, 19,5. On s'est trompé de 11 milliards dans la présentation des états financiers du Québec. Fait que, tu sais, c'est de voir à quel point la dette est de plus en plus hors de contrôle. On n'a toujours pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Puis donc, c'est quoi la marge de manœuvre que le gouvernement présentement pour alléger notre fardeau fiscal? Malheureusement, il y en a de moins en moins, à moins qu'il accepte, bien sûr, de faire un ménage dans les dépenses. Puis ça, c'est pas la veille d'arriver. Okay.
C'est-tu inquiétant d'avoir oublié 11 milliards de dollars sa facture en se disant, bon, c'est-tu un gros morceau qu'on oublie? On oublie des morceaux un peu partout. T'sais, j'essaie de voir où est-ce que c'est plus inquiétant là-dedans.
Ben, en fait, ce qui est le plus inquiétant, c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment sous-estimé à plusieurs égards, d'un, l'impact de la hausse des taux d'intérêt puis de l'impact des intérêts cumulatifs sur la dette. Il y a certainement d'autres éléments qui ont été oubliés, mais qui ou du moins qui ne sont pas mentionnés dans la dernière mise à jour, mais c'est effectivement le facteur le plus important, c'est les taux d'intérêt, puis aussi les conditions puis les obligations que le gouvernement du Québec avec les différents ces différents créanciers à la fin de la journée. Donc, ceci étant dit, quand on se trompe de 11 milliards, puis on s'entend, c'est pas une erreur qui a eu lieu, ne serait-ce qu'en plusieurs années fiscales. C'est une erreur de 11 milliards entre le budget qui nous a été présenté en mars puis la mise à jour qui nous a été présentée en novembre. Donc, oui, c'est assez énorme. Puis pour l'instant, le ministre Éric Girard n'a pas livré d'informations supplémentaires. Et puis, c'est le fait aussi qu'ils ont comme essayé de glisser ça sous le tapis. Là, pour l'instant, cette dette brute-là est à 245 milliards. Mais avant, si on regarde la croissance de la dette, avant même 2030, on arrive à pas loin de 300 milliards. Donc, on voit que ça va continuer à augmenter. Et il n'y a absolument aucun plan pour essayer de résorber ça. La seule chose qui nous a été mentionnée jusqu'à maintenant, c'est de dire, inquiétez-vous pas sur la dette du Québec, puisque le PIB, il augmente plus rapidement que la dette. Sauf qu'il faut le rappeler à chaque fois, si jamais le PIB ralentit, ben notre rapport avec la dette va être moins élevé et ça va faire en sorte que les emprunts que le gouvernement peut faire justement pour se maintenir endetté vont être avec des taux moins intéressants puis ça va nous coûter plus cher.
Oui, parce qu'on va se faire décoter. Je regarde la dette du Québec selon l'Institut économique de Montréal, là, 333 milliards, 923 millions, 542 000. Et la dette par contribuable, c'est autour de 48 500 $ actuellement. Ça veut dire que ton enfant qui naît aujourd'hui naît avec une dette de 48 500 $.
Exactement. Puis ça, comme moi je disais, la fameuse dette brute, c'est 245 milliards, c'est la dette du gouvernement, mais on ajoute à ça, comme l'Institut économique le fait, la dette d'Hydro-Québec, qui à elle seule, c'est 53 milliards. C'est énorme pour une société d'État, surtout une qui a comme le mandat d'électrification de peu près tout le réseau du Québec, bien surtout d'électrifier davantage le Québec. On parle de projets de plusieurs milliers de mégawatts. On parle aussi d'une transition électrique pour 2035, ouais. De pas loin de 150 milliards d'investissements.
Ça a-tu ralenti un peu? Parce que je regarde Benoît Charrette aujourd'hui qui est tout sourire là, dans les journaux avec sa pompe électrique à côté d'un véhicule électrique, puis il est content. Puis là, les stations-services pétrolières vont disparaître, puis il est heureux. Mais Legault puis Fréchette, là, ça les a-tu refroidi un peu, toute la filière électrique, là, je veux dire Taïga, Nordvolt, Lyon? Ils se rendent-tu compte qu'on va peut-être trop vite en affaires?
Ben oui, à plusieurs égards. Puis aussi, le message que Benoît Charrette a envoyé ce matin, il était pas qu'il est contradictoire, mais mettons que si j'étais un employé ou un propriétaire d'une station de service au Québec ou que je travaillais dans une des raffineries de Valero ou que j'étais impliqué dans la distribution de carburant au Québec d'une quelconque manière, mettons que je prendrais ça comme une douche froide en me disant, ben écoute, d'ici 10 ans, ma business va disparaître ou dans 10 ans, ben je vais devoir me trouver un autre emploi. Donc ça, c'est une réalité. Puis ça va affecter, veut pas, quand même un secteur assez important de notre économie. Puis de dire qu'on va manquer ou que, comment dire, qu'il va y avoir quasiment des pénuries d'essence ou qu'il n'y en aura presque plus au Québec, alors qu'en même temps, on sait que la situation énergétique va nous emmener avec peut-être pas des pénuries d'électricité, mais on va perdre nos surplus d'électricité d'ici 2027-2028. Donc là, on dit, OK, on aura de moins en moins d'électricité ou on va quasiment faire preuve de sobriété énergétique là, pour reprendre les fameux termes de Fitzgibbon. Puis après ça, on va nous dire, OK, ben il faut continuer à aller plus vers l'électricité, mais pas de gaz naturel naturel, plus de pétrole. On est, c'est quoi les solutions de rechange si jamais, justement, on manque d'électricité ou qu'on est incapable d'avoir un réseau assez solide pour, je dis ne serait-ce que s'assurer que tout le monde en ait suffisamment pour leur entreprise ou pour leur maison ou pour leur voiture. Donc, à la fin de la journée, j'ai comme l'impression qu'on va beaucoup trop vite. En fait, je pense pas que c'est une impression. Je pense que c'est en train de se démontrer elle-même avec la filière électrique, comme tu l'as mentionné. Mais là, cette ambition de se décarboner, ça pourrait effectivement affecter notre économie et même, à plusieurs égards, notre sécurité énergétique à long terme. Ouais.
Puis tu sais, Nick, j'aimerais tellement ça qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois s'assoie avec nous autres et nous dit « OK, en 2025, là, on tombe au tout électrique. Qu'est-ce qui va se passer avec les taxes qu'on ne sera plus capable de prélever sur le pétrole? On va mettre ça où, ces taxes-là, ces impôts-là? Est-ce qu'on va mettre ça sur l'électricité? Oui. Tarification dynamique, ça va ressembler à quoi? Tu sais, si moi, j'ai besoin d'électricité, à 7 heures le matin, là, ça va-tu me coûter 20$ de plus cher qu'à la normale?
Tu voudrais que ça soit clair, mettons, les propositions par rapport à ce plan-là. Mais tu sais, ils disent souvent qu'on n'a pas toutes les infos, on n'a pas l'équipe pour... Mais j'avoue que ça... C'est tellement important pour les futures élections.
Il n'y a pas grand-chose qui me terrorise, là, mais une fois qu'on va enlever les taxes qu'on prélève sur le pétrole, là, c'est majeur à la grandeur du Canada, mais c'est encore plus majeur au Québec. Là. Une fois qu'on va enlever ces taxes-là sur le pétrole, il va falloir les mettre à quelque part. Ça va être nécessairement sur l'électricité parce qu'on va tout dépendre de l'électricité. Puis si je consomme moins, bien, ça va me coûter moins, mais si moi je reste en région, Nick, puis je dois, je sais pas moi, travailler en ville, bien, je vais faire plus de kilométrage. Donc, ils vont mettre une taxe kilométrique. Il va falloir qu'ils aient le courage de le faire, de nous montrer ça.
Ben effectivement, puis je suis pas sûr qu'ils ont vraiment le courage de le faire. On se souvient que François Legault, il avait fait une conférence de presse carrément en 2023 pour rassurer les gens, parce que autant le ministre Éric Girard que Fitzgibbon n'arrêtaient pas de laisser entendre qu'une taxe kilométrique était envisagée, même que le ministère des Transports et le ministère de l'Économie et le ministère de l'Environnement, donc trois ministères ont tous fait publié des rapports, en fait, ou ont commandé des rapports par rapport à l'application d'une telle taxe. Puis il y a pas juste ça, il y a même la communauté métropolitaine de Montréal qui en a fait également pareil. Donc, c'est vraiment assez répandu comme idée. Et oui, à la fin de la journée, le gouvernement du Québec, quand on regarde ses revenus au niveau là, juste de la taxe d'assises provinciale, pas de toutes les autres taxes, uniquement cette taxe-là, c'est pas loin de 2,3-2,4 milliards qu'il va chercher en revenus chez les automobilistes. Maintenant, si on prend en considération toutes les autres taxes provinciales, dont l'application de la taxe de vente ou même de la taxe sur le carbone, on monte à quasiment entre 8 et 10 milliards que le gouvernement va chercher à chaque année. Et donc là, comment est-ce qu'il fait pour aller chercher des revenus ailleurs s'il les perd, ces revenus-là? Ben, c'est justement en inventant des nouvelles taxes. Mais ça a été démontré par le scientifique en chef du Québec que le déploiement d'une taxe kilométrique, ça serait pas facile. Ça se ferait de deux manières différentes. Soit on met en place des GPS littéralement dans tous les véhicules pour être en mesure de ne serait-ce que de tracer ou d'avoir accès au kilométrage accompli à chaque année par automobile, ou sinon on met en place, comme c'est le cas déjà dans certains pays, tout un réseau de caméras sur le bord des routes pour être en mesure de surveiller les allées et venues des véhicules et de s'assurer de pouvoir savoir combien de distance ils ont parcouru sur une journée ou une période donnée. Dans les deux cas, ben, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de coûts, et ça vient aussi avec le fait que le gouvernement va se débarrasser d'une part non négligeable de ses revenus pour aller davantage vers une électrification qui est insoutenable.
Hey, il stresse quand je fais mon lavage en plein jour. Imagine-toi quand tout le monde va être connecté sur leur réseau. Puis quand il va y avoir une panne majeure, si on ne se le souhaite pas, mais quand il y aura une panne majeure dans un secteur, mettons qu'on y va au plus terrible, là, c'est l'île de Montréal, les plongées dans le noir pendant quelques heures, ils vont faire quoi ces gens-là sur l'île?
Ben, c'est une très bonne question, surtout qu'en plus, on sait qu'ils veulent se débarrasser de toutes les nouvelles connexions au gaz naturel pour les nouvelles résidences. Puis éventuellement, ils vont essayer de pousser ça, pardon, pour que ça s'applique également à toutes les entreprises. Donc, au final, on s'en va vraiment dans une situation assez névralgique. Mais une affaire aussi que j'aime rappeler, c'est que ça a été fait en fin de semaine, justement. Là, on parle de l'interdiction sur les voitures à essence, mais aussi la fameuse exemple de la Norvège.
Ben oui.
Le candidat qui a réussi le virage. C'est drôle parce qu'on oublie de mentionner deux trucs. Le premier, c'est que, bon, pour être en mesure de virer vers l'électrique comme ils l'ont fait, ils ont un fonds souverain de pas loin de 1500 milliards de dollars.
Avec le pétrole.
Et avec le pétrole et les hydrocarbures, c'est un très bon point. Puis le point supplémentaire, c'est que le monde pense que la Norvège a fait le virage vers l'électrique et que c'est fini après ça, plus d'hydrocarbures.
Ben non.
C'est faux. depuis janvier, juste cette année, à titre d'exemple, ils ont lancé encore plus de nouveaux projets, de nouvelles plateformes en haute mer, plus de drillage pour aller chercher du gaz, puis ils sont rendus en Arctique pour plus de projets pétroliers. Donc, de me dire que nécessairement, ce virage-là, il vient d'une part, on s'en va vers l'électrification, puis on se débarrasse des voitures à essence, puis de l'autre côté, on décarbone, puis on met fin à l'essence, puis au pétrole. Ouais. Je suis désolé, mais c'est pas la tendance qui s'inscrit dans le monde, puis Benoît Charest est à côté de la plaque là-dessus. Là.
Nicolas Gagnon, la Norvège, c'est un pays exportateur de pétrole. On exporte 7 fois plus qu'on consomme de pétrole en Norvège. Fait que c'est un gros exportateur de pétrole. Nous, on n'a rien de ça, là. On n'exporte rien de ce type-là qui pourrait nous rendre extrêmement riches puis faire en sorte qu'on soit moins endetté puis qu'on puisse faire un virage vers le vert ou tout au vert, tu sais. On n'a rien de ça. Ils omettent à chaque fois, les journalistes activistes des différents journaux qu'on a, là, ils omettent à chaque fois de le dire que la Norvège, ben, ils ont fait leur argent avec le pétrole.
Ben, exactement. Puis on dirait que c'est un message qui ne passe pas au Québec, mais il faut le rappeler, c'est pour avoir des ambitions aussi démesurées, parce qu'il faut le dire que l'interdiction là, du gouvernement pour les nouvelles voitures à essence et au diesel pour 2035, puis c'est pas juste les voitures à essence, il y a aussi un projet de loi 81 pour les camions. Donc, il faut dire que c'est un ban, c'est une interdiction qui va être assez large. Puis le Québec serait une des premières juridictions aussi à s'attaquer aux camions lourds. Mais ceci étant dit, pour avoir les moyens d'une telle ambition, ben il faut avoir des moyens, justement. Le développement de nos ressources naturelles, c'est pas mal la meilleure avenue, en fait, parce que sinon, autrement, ben, le gouvernement doit aller chercher des revenus ailleurs pour avoir de telles ambitions. Puis où est-ce qu'il va les chercher? Ben, c'est dans nos poches. Et c'est pas. Et comme on en parlait au début, on en paye déjà assez de taxes et d'impôts. Donc, je pense que la meilleure solution, si on veut aller dans cette direction-là, c'est développer nos ressources naturelles en bonne et due forme, mais c'est vraiment pas un combat gagné d'avance.
Mais il reste aussi beaucoup d'interrogations, tu sais, par rapport à des pannes électriques. Là, si le réseau électrique plante pendant un bon bout, on a connu ça, une grosse panne électrique il y a peut-être 2 ans, Noël. Si on commence à être de plus en plus électrifié, c'est une super bonne chose. Pensons-le pour l'environnement sur beaucoup de points, là, d'autres que c'est encore aussi à éclaircir en ce qui concerne les accidents, les batteries, les ci, les ça, les composantes, comment elles sont extraites. Mais est-ce qu'on va être capable de soutenir un réseau électrique en cas de panne? Hydro-Québec, c'est toujours très long, puis c'est pas parce que les gens travaillent pas bien sur le plancher des vaches, là. C'est parce qu'un crime, à un moment donné, quand ça plante pour tout le monde. Si on a moins d'essence, si on n'arrive pas avec des voitures à essence à se donner justement du service, si jamais les services d'urgence passent aussi en progression, on n'a pas de rassurance par rapport à ça, là.
Ben non, on n'a effectivement pas de rassurance, surtout quand on voit qu'Hydro-Québec, en ce moment, ils ont la difficulté à octroyer des blocs de 5 mégawatts pour des entreprises qui en font la demande. On a des manufactures au Québec par centaines qui demandent de plus de blocs d'énergie de la part d'Hydro-Québec qui sont fermés la porte parce que il y a déjà cet effet de rareté qui met la pression sur la capacité d'Hydro-Québec à fournir. Puis en plus, dans les derniers rapports d'Hydro-Québec, on sait que d'ici 2035, et ça c'est une projection qui pourrait fortement être modifiée, mais pour l'instant, on sait que le tiers de la nouvelle énergie qui va être produite par Hydro-Québec, ça va être essentiellement pour les voitures électriques et même pas pour se chauffer ou pour nos besoins énergétiques à la maison. Donc, il va y avoir une croissance de la consommation avec une capacité de plus en plus difficile, en fait, ou restreinte de la part d'Hydro-Québec pour assurer une production suffisante d'électricité. Et là, le principal virage qui est fait, c'est pas vers le nucléaire ou pour un autre barrage hydroélectrique. Puis ça, de toute manière, on en a pour 15 ans avant qu'il soit construit complètement, c'est vers l'éolien. Puis ça, c'est pas encore joué parce qu'il y a beaucoup d'ententes, notamment avec les Premières Nations qui doivent être négociées. Et là, on se dit, on a besoin d'électricité maintenant ou on avait peut-être même besoin hier pour nos besoins économiques. Puis là, on est en arrière, on a un objectif dans 10 ans qui nous amène dans l'électrification à toutes les sauces. Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir de l'électricité à la maison? Est-ce qu'on va être en mesure d'en avoir assez ou en avoir pour notre argent? Bien, ça, c'est une question qui est de plus en plus sérieuse qu'il faudrait se poser. Puis que,